Bonjour à tous et bienvenue dans Splash and Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Pour parler d'Indianapolis cette semaine, puisque ce n'était qu'Indianapolis, en NASCAR, en IndyCar, avec des orages, sans les orages, mais bref, c'était Indianapolis. Il y a Lilian pour nous parler de tout ça, il était ravi d'Indianapolis. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Et Aloïs, comme d'habitude, fidèle au poste, salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tout le monde.
Alors ne vous inquiétez pas, Aloïs il fait le lien entre sa prise et son câble Ethernet, donc il se peut que par moment ça coupe. Voilà, ça arrive mais c'est pas grave, c'est du Aloïs pur jus si on peut dire, mais c'est ainsi.
Mais du coup c'est du jus alternatif là aujourd'hui.
C'est ça, c'est le mauvais jus. L'IndyCar, Lilian, on va commencer par ça, puisque je sais que tu as aimé ton week-end d'Indianapolis entre une course d'IndyCar où tu t'es fait chier et une course de NASCAR que tu n'as pas pu voir à cause des orages.
Donc oui, la NASCAR, j'ai fait comme je fais malheureusement ces dernières semaines. Je profite de l'abonnement au Track Pass pour la regarder tranquillement le lundi après-midi,
c'est ça.
Une fois que j'ai fini ma journée de boulot.
C'est ça, et enfin, tu n'as pas pu voir en direct et pour une fois, tu n'as pas eu besoin de... Comment, de tes cours de portugais, donc t'étais heureux.
C'est ça.
Et cette fois-ci, l'orage, il était avant la course. Enfin, il est passé à côté.
Ouais, il est passé à côté.
Pas pendant.
Juste le protocole de sécurité, ouais.
C'est ça. Mais encore une fois, enfin, ça devient dingue, cette histoire. Et on comprend mieux pourquoi la NASCAR ne donne plus les horaires des drapeaux verts.
Ouais, ils sont désespérés, ouais.
C'est, ils sont désespérés et la situation est désespérante. Mais
il n'a pas fallu sortir les sécheuses, pour une fois. C'est à souligner.
C'est ça.
Mais il fut un temps, on avait amour, gloire et beauté. Cette année, c'est Covid, pluie et orage. Hein.
Putain, c'est quoi ça?
C'est pas faux. C'est pas faux. C'est...
Aïe, aïe, aïe.
Les feux de l'amour, selon Aloïs. Bref, on était sur l'IndyCar à la base.
Ouais,
on a quand même bien divergé sur la NASCAR.
Il y a
quand même eu une course, messieurs. Et Lilian, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est quand même dommage de commencer par ça, mais finalement, je crois que la seule chose à dire, c'est merci Oliver Askew.
Bah, je pense que s'il n'y avait pas eu cet accident, voilà, ça aurait été drapeau vert du début à la fin, et puis bah, ça aurait été très probablement une victoire de Willpower, et encore une fois de la Penske. Finalement, cet accident a remis complètement les stratégies à plat. Mm-hmm. Et puis, il y a eu des gagnants, comme d'habitude. Et puis, il y a eu des perdants. Willpower en a fait partie. Et c'est Scott Dixon qui a tiré les marrons du feu, qui va chercher sa deuxième victoire de la saison, sa première à Indianapolis. Simon Pagenaud, qui partait de très loin, sauve une troisième place. Donc, au final, il est deuxième au classement. Donc, sur les deux premières courses, il a des résultats, on peut dire, inattendus quand on voit sa place sur la grille de départ.
Mm-hmm. Et puis, il a vraiment, je pense que c'est la personne qui a le plus profité de ce drapeau jaune, parce qu'il était vraiment bloqué au fond du top 20.
Complètement. C'est, il le dit hein, en interview d'après-course que ce drapeau jaune y a été très bénéfique. En fait, globalement, toutes les monoplaces avaient la même performance, donc compliqué de dépasser, même avec un artifice comme le push-to-pass. Donc, il a bien profité de ce drapeau jaune avec une stratégie qui était faite finalement pour ce drapeau jaune sans le savoir. Et il s'en sort très très bien. Et du coup, il limite la casse sur un Scott Dixon qui nous fait 2 sur 2. Et quand même, 2 cavaliers seuls cette année, quoi, que ce soit au Texas ou à Indianapolis. À partir du moment où Scott Dixon est parti en tête, on ne le revoit plus. Et il termine avec 20 secondes d'avance que sur Graham Rahal, qui lui était parti quatrième.
Ouais, puis lui, il était sur une stratégie à 2 arrêts, alors que Dixon oui. était sur une stratégie à 3.
Exactement. Rahal avec Ferrucci était sur une stratégie à 2 arrêts, tout comme Connor Daly. Donc on a parlé de ce podium. On va continuer le top 10, messieurs. Colton Herta, le rookie Rinus Vicky qui fait un top 5. Je ne sais pas si vous voulez en dire deux mots.
Ben, si je ne dis pas de bêtises, c'est un top 5 en plus à la régulière. Il n'a pas profité des conditions de course ou d'une stratégie à deux arrêts. C'est vraiment sur la conduite pure.
Ouais, un petit peu comme Pagenaud, il part 18e. Hein, donc, il est sur trois arrêts aussi. C'est un peu comme Pagenaud.
Ceux qui étaient sur une stratégie à trois arrêts ont été vaincus, ont gagné énormément de place grâce à ce drapeau jaune.
Par exemple, Herta, Vicky, Eriksson qui font 4-5-6 terminent devant Joseph Newgarden, 7e, qui, les quatre, étaient à peu près sur la même stratégie en fin de course. Donc, c'est 4-5-6e place pour des pilotes, on va dire, de second rang, devant le pilote de pointe de la Roger Penske, ça veut dire quelque chose quand même, c'est pas n'importe quoi.
Oui, oui, c'est totalement... Enfin, c'est signe d'un bon résultat. Mais c'est vrai que la Penske, hormis Pagenaud, ça s'est quand même un peu troué sur cette course. Quoi. Newgarden ne fait que 7e.
On ne l'a même pas vu du week-end, Newgarden.
On ne l'a jamais vu.
Et surtout dans l'ombre de Scott Dixon quasiment toute la course.
Oui, et Power, y a boulette dans les stands.
Oui, en plus.
Ah, c'est pour ça que je m'étais fait la réflexion pendant la course. Tiens, encore une Power. Parce que j'ai l'impression que ça arrive toujours. Mais
il a calé, non? Je ne me rappelle plus.
Oui, il a calé. Il était reparti pratiquement de deux emplacements. Donc,
c'est le temps de revenir. Pour le faire reculer, ouais.
Ouais. Donc, forcément, un petit peu compliqué de faire un bon résultat dans ces conditions pour Will Power. Qui pointe déjà au 15e rang du classement général, à 73 points du leader Scott Dixon après deux courses. Ça rappelle un petit peu, toute proportion gardée, un Simon Pagenaud l'année dernière, mais qui avait, lui, bénéficié notamment de sa victoire aux 500 miles pour remonter et se replacer au classement général. Mais ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Donc, pour l'instant, Will Power hors du coup. Mais on est chez Penske, ne pas enterrer...
Oui,
ne pas enterrer clair. Les pilotes Penske. Donc voilà.
L'Indy 500 n'est pas encore passé.
L'Indy 500 n'est pas encore passé. Et l'Indy 500 devrait se faire avec des spectateurs, a priori, aux dernières nouvelles. On aurait entre 50 et 60% de la capacité maximale des tribunes.
Donc à date, oui. Vu la situation aux États-Unis avec le Covid.
C'est ça.
Attendez-vous un joli cluster dans l'Indiana en septembre.
Oui, et puis il n'y aura peut-être pas que dans l'Indiana, et il ne faudra peut-être pas attendre septembre. Hein.
Mais vu, ils veulent remplir quoi? C'était entre 50 000 et 100 000 personnes pour l'Indy 500?
Ah non, tu étais autour de 180 000, je crois, le chiffre que j'avais donné sur US Racing. C'est 300 000, le... Comment 300, entre 300 et 350 000, la capacité d'accueil maximale d'Indianapolis. Donc voilà, on verra, on n'y est pas.
Mais... S'ils veulent faire un petit remake de The Purge, c'est comme ils veulent. Hein.
Oh bah, ça en prend le chemin. Et puis, voilà, on va pas diverger sur les autres sports, mais il y a d'autres sports aussi sur lesquels ça pourrait arriver, notamment du côté de New York. Mais bon, c'est un autre débat. On se termine le top 10, messieurs. Marcus Ericsson, 6e. Perso, j'ai rien à dire sur Ericsson. 7e, Newgarden, on en a parlé. 8e, Pato Howard. 9e, Santino Ferrucci. 10e, Takuma Sato.
C'est quand même un top 10 olé olé. Hein.
C'est clair. Il fallait le trouver, celui-là.
Il y a des pilotes qu'on retrouve habituellement dans un top 10. Je veux dire, Takuma Sato dans le top 10, c'est pas déconnant. Newgarden, Dixon, Herta, Pagenaud, Royal, c'est pareil. Bon, après, c'est pas forcément à ces places-là. Mais
t'as même pas de voiture Andretti, j'ai l'impression.
Mais c'est ce que j'ai. Ah bah, si tu as Colton Herta.
Si, Colton Herta.
La réflexion que je me faisais quand je vois Hinchcliffe 11, Hunter Red 13 et Zagvich 14.
Aussi qui abandonne.
Et Rossi qui abandonne, on parle facilement de la Penske, mais la Andretti, c'est encore plus transparent que...
Mais c'est marrant, personne ne parle de Marco Andretti qui termine à un tour. Ok. Ok, je sors.
Andretti n'est plus là, Andretti.
Ouais, c'est ça. Oui, mais bon, c'est affilié Andretti, donc...
Ouais, enfin...
Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette course d'IndyCar? Sinon, que malheureusement, je l'ai trouvé insipide. On a eu des courses
quasiment comme chaque année, malheureusement.
Oui. Sur le routier d'Indianapolis, ça peut être plus intéressant. Quand on sait qu'on va y revenir une seconde fois en fin d'année.
Bon, ouais.
Je sais pas. Après, voilà, fallait faire un calendrier. Pareil, prenons deux secondes là pour parler du calendrier, puisque ce week-end on va à Road America. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 15 jours calendaires, l'IndyCar aura fait plus d'un tiers de son championnat, puisqu'on aura eu le Grand Prix d'Indianapolis, on aura eu les deux courses à Road America, et ensuite on enchaîne avec deux courses en Iowa. Donc en 15 jours, on fait 5 courses, il y en a 14 de prévues.
Ouais. Ouais.
Et après, il y a encore des gens qui s'étonnent que les intersaisons d'IndyCar puissent faire 9 mois, quoi.
Moi, j'adore la logique IndyCar. Tu reprends ton calendrier avec deux courses en un mois, enfin séparées d'un mois, et ensuite tu enchaînes 5 courses en 2 semaines.
Bah oui, c'est la logique est assez déconnante. Après, on ne connaît pas tout des tenants et des aboutissants de toutes les pistes. Est-ce que tu vois, c'était possible d'aller à Road America une autre date, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même assez étrange comparé à la NASCAR qui nous a quand même fait globalement du toutes les semaines avec de temps en temps des courses en milieu de semaine histoire de d'éponger le retard. Là, c'est vrai que c'est assez déconnant de se dire que dimanche, on aura fait pratiquement un quart de la saison. Et dimanche prochain, on aura fait un tiers de la saison.
Alors, ça vient de commencer, quoi.
Mais c'est ça vient de commencer. on aura eu 4 week-ends, 4 week-ends de compétition dans 3 semaines, quoi. Je sais pas. Mais ça me sidère un petit peu. Après, c'est vrai que c'est une année assez exceptionnelle. C'est une année de transition. Il a fallu faire un calendrier comme on a pu. Un calendrier fait de briquet de broc. On va 3 fois à Indianapolis, on va 2 fois en Iowa sur le même week-end, on va 2 fois à Laguna Seca, je crois, on va 2 fois ou d'autres à Road America, on l'a dit. Bon ben voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça fait très très drôle, rétrospectivement, de se dire ça, quoi.
Bah, ce qu'il y a en plus, c'est que l'IndyCar fréquente quand même plusieurs circuits urbains.
Oui.
Et ça, avec le Covid, et puis après pour des... on va dire probablement des soucis au niveau de l'organisation pour installer le circuit dans la ville, les courses ont été annulées. Hein.
Je pense à
Saint-Pete, à Long Beach.
Oui, c'est ça, Saint-Pete, Long Beach, Toronto, je crois.
Toronto, on n'y va pas non plus.
C'est ça.
Donc là, du coup, il n'y aura pas de piste urbaine prévue cette année.
Non.
C'est Saint-Pete en octobre.
Oui, Saint-Pete en octobre, oui. Bon,
si tout va bien, Saint-Pete en octobre, mais il n'y aura que ça.
C'est du semi-urbain, mais oui, c'est... Voilà, on a fait ce qu'on a pu en IndyCar.
Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression que la NASCAR s'est peut-être un petit peu mieux débrouillée quand on regarde les calendriers.
Ah ben oui, sur la densité du calendrier. Mais ils ont juste oublié de mettre des parapluies au-dessus des circuits, quoi.
Ouais, mais ouais, après, c'est comme tu dis. D'un coup, on pourrait être tenté encore une fois de mettre un plomb sur l'IndyCar. Mais oui, je pense que oui, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, ils ont fait des double headers. Je pense que c'était faute de mieux, c'est malheureusement.
Ça. Mais c'est ça.
Ça permet de gonfler un minimum le championnat.
Mais
c'est vrai que 14, c'est un peu light quand même.
Mais Lilian, tu disais, tu trouves que la NASCAR s'est un petit peu mieux débrouillée que l'IndyCar. Honnêtement, je trouve que la NASCAR a quand même sorti une masterclass par rapport à l'IndyCar et même par rapport à tous les autres sports majeur aux États-Unis. C'est mon avis, on en rediscutera, je pense, à une date ultérieure, mais pour une fois que je dis ça, mais la NASCAR, c'est masterclass.
Oui, effectivement, on a prévu dans les semaines à venir un petit bilan reprise et du coup calendrier un petit peu 2020 des différentes disciplines. On fera ça quand il y a une pause en NASCAR, je crois, à la fin du mois d'août. Il faudra attendre un petit peu, on verra. Mais... oui, on essaiera d'en parler parce que c'est vrai que ils ont fait un truc d'exceptionnel. Voilà pour l'IndyCar. Donc, comme je l'ai dit, ce week-end, c'est Road America. J'ai déjà
Double header, ouais.
J'ai déjà oublié. Et puis, forcément, comme Comme il n'y a pas de NASCAR à Road America ce week-end, je crois que j'ai pas d'infos à vous donner sur les horaires, sur les, sur toutes ces choses-là. Donc, rendez-vous, je sais pas quand, dans la semaine, j'espère pouvoir vous donner des infos avec, avec les horaires, avec les engagés. Voilà, comme d'hab, l'IndyCar est à la traîne, mais c'est pas grave. Messieurs, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai, Loïs, on parle de NASCAR en IndyCar, mais bon, c'est pas grave. C'était Indianapolis et on sait bien qu'Indianapolis c'est le berceau de la NASCAR. Allez, Lilian, je t'écoute avec ton j'aime et ton j'aime pas.
Ah ouais, t'es comme ça.
Bah ouais.
Eh ben, j'ai pas de j'aime pas, j'aurai deux j'aime cette semaine, si ça te convient.
De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. C'est vous qui faites le programme maintenant.
Alors, premier j'aime, c'est d'avoir récupéré 1700 euros qui m'avaient été débités par erreur.
Ah bah. Oh, une petite erreur.
Voilà.
Ah, et encore un qui a eu un abonnement pendant le confinement, quoi.
Même pas.
J'ai pas acheté de piano à cuisine.
Et mon deuxième j'aime, c'est les travaux qui peuvent enfin commencer dans mon jardin.
Ah bah oui, maintenant que t'as les sous.
Voilà, c'est ça. Je peux payer le fournisseur.
Bon, du coup, c'est quand que tu payes ton jacuzzi, là?
Mon jacuzzi? Ah, si t'es prêt à venir te les cahier dans le chenard.
Ah bah, jacuzzi, il fait chaud dedans.
En principe. Et ouais. Ça se transforme vite en glaçon, hein, chez nous.
Ça, après, on veut pas savoir.
Le choc thermique, c'est bien pour la circulation sanguine.
Bon, mais bon, quand il fait 5 degrés dehors, il peut faire 5 degrés dedans, il n'y a pas de choc thermique. Hein. Aloïs, j'aime pas.
Du coup, mon j'aime, le dernier tour de la course d'Xfinity à Indianapolis.
Oh, tu peux même mettre les deux derniers.
Pour aller.
Ouais, tu peux au moins en mettre
les
deux.
Les trois derniers tours, franchement, le finish était sublime.
C'est vrai.
C'est vrai.
Et les petits jeunes qui se tirent la bourre. Et qui se mettent en travers dans des chicanes, Et encore, il y a plus, personne s'est mis à l'envers. Mm-hmm. Tout le monde a fini les quatre roues à plat et dans le bon sens de la course. Mais franchement, ça valait le détour et.
Les petits jeunes, il y avait AJ quand même. Hein. C'est plus un petit jeune. Hein.
C'est vrai, il y avait AJ Madninger et les petits jeunes.
Tout à fait. Et ton j'aime pas, non, tu l'as fait? Je sais plus.
Non, moi j'aime pas. Justement, j'y arrive. C'est bon, bah, j'ai regardé 100 minutes de la course de F1 sur YouTube, c'était parfait. J'ai juste eu le temps de rager sur le fait que j'ai quand même l'impression que dès qu'il y a un dépassement en Formule 1, ils savent pas faire sans se toucher ou se sortir. Je sais pas comment ils font, soit ils sont mauvais, soit ils ont pas l'habitude. Je mettrais bien une pièce sur les deux, mais j'ai quand même été halluciné de voir que à chaque dépassement, soit ça touche, soit ça se met dans les graviers. Soit ça se met à l'envers, j'ai dit, ok, il faut qu'ils apprennent à se dépasser. Hein,
les ouais, non, mais attends, ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas roulé.
Bah, tu sais, Sato, il n'a pas besoin de dépasser pour se mettre dans le mur. Hein.
non, t'es méchant, ce week-end, c'était Askew. donc voilà. J'y vais, je commence par mon j'aime pas. La connasse, au volant de son Opel, qui me fait un refus de priorité aujourd'hui, alors que je suis tranquillement sur un rond-point. J'ai failli passer sous l'Opel, quoi.
Ah bah, d'autres qualités, hein.
Ouais, mais un vélo contre une voiture, c'est jamais le vélo qui gagne. Je comprends pas pourquoi.
Non, mais Geoffroy, en vélo, il a vraiment pas de bol. Geoffroy, il va nous écrire un livre dans 5 ans.
C'est ça.
J'ai failli perdre 4000 vies sur vélo.
C'est
après,
ça.
Après Martine, c'est Geoffroy.
C'est ça, David. S'il te plaît, comment ça, tu me compares à Martine? Non, mais...
Oh, excuse-moi, j'ai parlé de ta mère, pardon.
Oh
Oh, dur.
Mais oh, non, mais s'il te plaît, comment ça dure? Non, mais oh.
Bah, oh. Martin, c'est pas un nom masculin en Allemagne?
Si, aussi. Oh non, mais c'est pas possible, les gars. Oh là là, non, bon, je... Bref, non mais c'est dommage, Lilian, t'avais fait ma transition parfaite pour le j'aime, t'avais parlé d'un livre, mais t'es allé trop loin encore une fois, t'as dérapé dans Martine. Mais il y a un super livre qui sort le 16 juillet qui va faire plaisir à Loïs, qui s'appelle Orage et désespoir d'un certain Guillaume Di Grazia. sur le Tour de France 2019.
Orage et désespoir. J'essaie de voir la référence.
Pourquoi Alaphilippe aurait dû gagner le Tour de France? Et je pense qu'il doit parler de cette histoire d'étape raccourcie suite à l'orage.
Ouais, l'orage à Tignes.
Oui.
Pas ça.
Donc, okay. Je sais pas. J'ai pas vu les bonnes feuilles passer, mais.
En tout cas, un livre écrit par Guillaume Nigradia, ça sent quand même le bon plan.
Exactement. Donc, rendez-vous le 16 juillet en bibliothèque. Enfin, non, en librairie, pardon. J'avais plus le nom. Voilà. Et j'ai une info qui sert à rien. Figurez-vous que le 5 juillet, Jeff Gordon et sa famille ont fait un pique-nique.
Waouh, ça, c'est une bonne info qui sert à rien.
Ouais, attends, t'as vu, hein, j'en donne pas tout le temps des infos qui sert à rien, mais.
Merci, Jeff.
Je suis désolé, Aloïs, mais quand je donne des infos qui sert à rien, Dodge Qualitat, quoi. pour reprendre ton expression. Ah, c'est ça. Allez, on a fini avec les infos qui sert à rien, le j'aime pas, on va passer à la NASCAR tranquillement. Lilian, la NASCAR, t'as pu la voir? C'est bon? T'es au fait?
Oui, lundi après-midi, sans la pause, et c'était très bien. Et j'ai pu écourter le drapeau rouge aussi, donc c'était très bien.
Et du coup, les éclairs sur grand écran, c'est bien?
Ouais,
génial.
Pour information, Geoffroy s'amuse à me railler depuis quelques semaines, depuis que j'ai changé de télé. Et comme j'ai pris une taille un petit peu plus grande, bah voilà.
Faut pas me lancer sur des sujets à la con comme ça, hein, parce que je... Et en même temps, enfin, c'est tellement. On va faire deux minutes aussi là. C'est pareil parce qu'on parle des intempéries. C'est vrai que la NASCAR n'a pas le choix. Malheureusement, elle subit. Elle a mis en place une politique dès qu'il y a un éclair à moins de 8 miles du circuit de mettre 30 minutes d'arrêt et tout le monde aux abris le temps que. Donc tout se calme, quoi. Il faut un délai de 30 minutes avant que les activités reprennent, ce qui en soi est une bonne chose puisqu'il y avait eu des soucis du côté de Pocono il y a quelques années de ça avec des fans qui avaient été foudroyés. Mais moi ce qui commence à me gonfler sévère, c'est les gens qui râlent que les courses partent tard.
Partent tard en France ?
Oui, elles partent tard en France, mais déjà d'une... Les Américains, ils en ont juste rien à foutre des petits Français qui râlent à NASCAR, parce que ça concerne à peu près 3 pelés, 2 tondus. Il y en a au moins 3 autour de la table. Je laisse libre cours à chacun de savoir s'il est pelé ou tondu.
Les deux.
Ou les deux. Mais après, la NASCAR, déjà, elle s'en fout de nous. Et il ne faut pas oublier qu'en 2020, il n'y a pas de spectateurs. Ou alors, quand on a 5000, si tu veux, c'est le bout du monde, tu as l'impression d'assister à une course d'IRL. Donc forcément, pour rentabiliser au niveau de la télé, il faut que la course elle parte tard. Puisque plus la course elle part tard, plus t'as de monde devant ta télé, ça paraît d'une logique implacable.
Bah non, bah après sinon bah tu fais comme moi, hein, tu regardes pas le résultat et tu regardes en différé.
C'est ça.
Voilà. Enfin, après il y a des solutions aussi qui s'offrent à nous. Hein, aller tout le temps. Hein.
C'est ça. Il y a des solutions.
Les courses aux États-Unis partent vers quoi? 4 heures, 4-5 heures de l'après-midi?
Avant ou après l'orage?
En temps normal, sans les orages.
Bah là, Indianapolis, c'était 4 heures. Mais en fait, initialement, il devait y avoir les qualifications vers midi. Mais comme il n'y a plus d'essais ni de qualifications depuis la reprise, la NBC a choisi de laisser à 16 heures le départ de la course.
Bah, en vrai, si tu réfléchis, quand tu mets tes courses départ à 4 heures aux États-Unis, tu part dans l'éventualité qu'elle dure, disons quoi, 3 heures.
Allez, oui, c'est ça. Oui. Elle se termine en prime time.
Tu fais du 4-7, t'es en access prime au final. Hein.
Ben oui. Donc, non, c'est totalement logique. Après,
il va falloir penser à installer des phares sur les voitures, hein, parce que ça commence à être limite depuis quelques semaines.
Ouais, la Indianapolis, les derniers tours, c'était quand même très sombre.
Hein. Ah, encore, je pense qu'on se rendait pas compte parce que à la caméra, ça doit être un petit peu éclairci.
Oui, la caméra éclaircie.
Mais ouais, je pense que ça devait commencer à être super sombre.
Pocono était plus sombre qu'Indianapolis, j'ai trouvé.
Ah, après, je pense
que c'était moins ensoleillé, peut-être. Mm.
Mais c'est surtout qu'à Indianapolis, tu as quand même des tribunes qui sont assez hautes. Alors
Oui.
qu'à Pocono, c'est quand même très race campagne.
Bah c'est ça. Et puis à Pocono, t'as des tribunes que d'un côté. Indianapolis, dans la ligne droite avant, t'as les deux côtés. Donc
Ouais, t'arrives dans le turn one, je pense pas que tu voyais grand-chose en fin de course, hein.
t'as un effet tunnel. Si tu voyais grand-chose, parce que Hamlin, il a fait des étincelles en fin de course. Malheureusement pour lui, dans le virage 1. On va y revenir. On va en parler de cette course quand même. Que j'ai trouvé, ma foi, fort intéressante, messieurs, Indianapolis. Pas de PJ1, comme quoi on est capable d'avoir des ovales atypiques sans PJ1 et que les courses se passent beaucoup mieux qu'avec du PJ1, n'est-ce pas, Pocono? Denny Hamlin était parti pour s'ajouter un troisième monument à son palmarès, après les Daytona 500, les Southern 500, et malheureusement,
Le pneu droit a décidé que non.
le pneu droit a décidé que non, et Denny Hamlin est un petit peu venu s'ajouter à la longue liste des pilotes qui ont eu des gros soucis sur cette course de pneumatique. Je pense notamment à Ryan Newman, il y a eu Eric Jones, il y a eu Ryan Blaney, Alex Bowman, il y a eu William Byron. Bref, que des grosses équipes.
Et
Et
il y
des
a eu
gros
aussi
chocs pour certains.
Ouais, c'est ça, des gros
Et
chocs.
des gros cartons parce qu'à chaque fois c'est T1 ou T3, quoi.
Ah, Eric Jones en prend une bonne. Danny Hamlin en prend une bonne.
Ouais. Ah, ils en prennent tous
Bowman, pareil.
ils en prennent tous des
Ouais.
sacrés. Hein. En plus, le choc de travers comme ça, enfin, ça fait partie
Ah, celui d'Eric
des
Jones, ça
pires
fait quand
chocs.
même assez peur.
Oui, et puis c'est même celui de Denny Hamlin, je crois qu'il met un petit temps avant de descendre le filet de sécurité. Et puis il met un petit temps aussi à parler à la radio. Tu te dis, bon, pas top, quoi. C'est sympa, les courses peuvent être sympas à Indianapolis, mais si c'est pour terminer dans des états comme ça, non, quoi.
Quand ça tape, ça fait pas semblant.
Quand ça tape, ça fait pas semblant Indianapolis. Et l'année dernière, je crois que c'était Keselowski aussi qui s'était retrouvé dans une position peu avantageuse entre les virages 1 et 2 de mémoire.
Ah oui, il était perché sur les
Il
pneus.
était perché sur les pneus.
Exact, oui.
Voilà, t'as souvent, c'est vrai qu'on a souvent des gros cartons en monoplace. On se souvient notamment de Sébastien Bourdais,
Scott Dixon.
Scott Dixon. Oh oui, Scott Dixon en pleine
Pour les
course.
plus récents,
Quand tu
ouais.
parles entre le turn 1 et le turn 2,
Ouais.
oui, Dixon s'en prend une méchante.
Et c'était qui entre T3 et T4? C'était un pilote.
Bon? Non.
Non, 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 c'était un pilote Schmitt, un Peterson.
Qui finit dans les grillages?
C'était pas Hinchcliffe?
Alors à l'époque, si, il y a eu du Hinchcliffe, ouais,
Si,
qui a
si,
fini dans les
c'est
grillages.
Hinchcliffe qui s'en met une dans les grillages virage 3-4. Je crois en décollant. Je me demande s'il décolle pas sur un
Si, c'est
adversaire.
possible.
Je me demande si c'était pas avec Sato.
Mais après, on est quand même habitué à des chocs très violents en IndyCar, mais en NASCAR, ça devient, j'ai envie de dire, monnaie courante, même si ça fait un bout de temps qu'il y en a. Mais il ne faut pas se dire que c'est des voitures fermées, du coup, ils sont mieux protégés. Ils prennent, enfin, si, ils sont mieux protégés, mais ils prennent quand même de sacrés chocs.
Et oui, et on a quand même ces dernières années enfin, un gros passif de blessures importantes, sans aller très très loin, Arik Almirola, Kyle Busch.
T'as pas le Mendinger aussi qui était sur la touche un long moment?
Si, t'as eu Al Bendinger, t'as eu Dale Earnhardt Jr. aussi avec ses histoires de commotion. Enfin voilà quoi, t'as pas forcément besoin de taper très très fort, juste de mal taper quoi,
Ah, il
c'est
suffit de
juste ça l'histoire.
regarder Daytona 500 2001.
Oui, aussi.
C'était une autre époque, certes. La
C'était.
sécurité n'était pas aussi développée, certes. Mais
C'est
on
un peu ce qui a
permet
servi de
la
point de
suite.
départ, malheureusement.
Oui.
Ouais.
Donc, c'est vrai que la sécurité a bien évolué, mais les chocs restent parfois très violents. Et enfin là, on l'a vu, Denny Hamlin, Eric Jones. Pas top. Et enfin, c'est quand même rassurant de les voir en interview. Après le passage par le centre médical du circuit et dire que dans l'ensemble tout va bien quoi.
Et puis ça tape sur la piste, mais je sais pas si on commence par ça, mais ça tape aussi dans les stands.
Oui, mais je voulais y venir aussi à cette histoire. Mais
Chronologiquement, oui, c'est ça en premier.
c'est ça en premier, mais c'est vrai que enfin voilà, je voulais quand même parler de Denny Hamlin avant toute chose. Ouais, dans les stands.
Et mais faut c'est quand même improbable ce qu'ils sont arrivés à faire et
Mais
qu'ils nous.
après, faut quand même pas oublier que Indianapolis. C'est l'une des lignes des stands les plus étroites qui soient.
Donc... Et justement, tu le sais, parce que tout le monde le répète H24 depuis une semaine.
Alors, oui. Il fallait peut-être abaisser la vitesse.
Je sais pas, mais ils ont
là,
fait.
C'était 55.
Ils ont fait une partie de bowling. C'était bien dommageable pour beaucoup de monde.
Ah bah une partie de bowling avec Brennan Poole, c'est quand même assez cocasse.
C'est pas faux.
Petite blague bilingue pour ceux qui n'ont pas compris.
Ce qui est un petit peu plus dommageable, c'est que bah, malheureusement, il y avait un mécanicien de la Penske dans tout ça, quoi.
Il y avait un mécanicien de la Penske dans tout ça.
Florian Blainey.
Oui, qu'on a pris une très très belle.
Il aurait pu lui aussi se faire très mal. Mais aurait... au final, ça a l'air d'être plutôt bénin.
Ouais. Ouais, ouais.
Bah, quand tu vois les images à chaud, tu te dis « punaise, il s'est fait broyer les jambes, quoi ».
Oui, et en fait, non, ça va assez bien. Et c'est quand tu revois, moi, ce qui m'a fait peur, c'est les images au milieu du deuxième segment où tu vois le pneu partir sur la... pratiquement sur la voiture de celui qui est garé devant dans les...
C'était Corée Lajoie ou dans c'était McDowell ?
Non, parce que Corée Lajoie est pris dans l'accident. Donc
c'était Michael McDowell de mémoire.
Ouais, j'ai plus souvenir de qui était positionné devant.
Ouais, ouais. Ouais. Et tu vois le cric aussi qui dégage. Et
surtout, celui qui a aussi eu de la chance, c'est justement le Jackman qui saute sur le toit de la voiture de Blainey.
Oui, c'est vrai aussi.
Ah ben là, oui, on est passé tout proche d'une très très grosse catastrophe humaine dans les stands, quoi.
D'ailleurs, il faudrait parler de la sécurité du personnel autour des voitures, parce que je trouve que le casque du changeur de pneus qui a été balayé par Brennan Poole est quand même à sauter très rapidement, très facilement.
Et parce qu'ils ne sont pas attachés par sous le menton ?
Ben normalement, si.
Mais s'ils ont la fixation, elle n'était pas mise, c'est pas possible.
Oui, c'est vrai que ça a sauté très très vite. Cela dit, c'est pareil, les mécaniciens depuis quelques années ont quand même des protections plus importantes que ça n'était. Quand vous avez l'occasion de regarder les courses en replay qu'on vous propose sur le YouTube du S-Racing, il y en a certaines, quand on voit les mécaniciens qui sortent, alors je vais pas être vulgaire parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent, mais sans casque, sans rien, ça fait très 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 peur. Donc... voilà, la sécurité, elle a aussi évolué dans les stands. Il y a peut-être encore des choses à faire, sûrement. Après, le risque zéro n'existera jamais dans les stands. Quand tu envoies 40 voitures comme ça, ça peut faire très mal. Du coup, on va peut-être parler un petit peu du vainqueur, messieurs, à moins que vous ayez encore d'autres choses à dire sur tous ceux qui ont eu des accidents. Ça nous faisait pas mal de monde. Kevin Harvick qui s'impose, qui conserve son titre à Indianapolis, c'est le second pilote dans l'histoire à le faire après Kyle Busch. Troisième victoire à Indianapolis après 2003 et 2019 donc, qui a bien profité de l'incident de Denny Hamlin. Il le dit en interview que Hamlin était plus fort et Hamlin avait fait la stratégie parfaite avec son chef d'équipe lors de l'arrêt sous drapeau vert en fin de troisième segment.
Et puis superbe arrêt de l'écurie 11.
Et très mauvais arrêt de l'écurie 4.
Aussi.
Enfin, les deux couplés, plus le fait que Hamlin s'arrête un tour plus tôt, ça avait été à l'avantage de Denny Hamlin. Et malheureusement, son pneu avant droit, on a décidé autrement. Et Kevin Harvick remporte une nouvelle fois Indianapolis. Mais finalement, la surprise, c'est pas forcément Harvick, puisqu'on l'avait vu la semaine dernière à Pocono.
Je te vois venir.
C'est la surprise, c'est quand même la deuxième place de Matt Kenseth, Lilian. Belle surprise, on ne l'avait pas vu dans le top 10 depuis sa première course de Darlington.
Oui, bah voilà, c'est ça. C'est son premier top 5 et seulement son deuxième top 10, puisque on a été étonnés, et je me souviens, après sa première course, on en attendait mondes et merveilles. S'en est suivi des courses très compliquées, un peu plus les unes que les autres. Et puis là, on arrive sur une de ces pistes de son propre aveu fétiche. Et puis, là, ça s'est super bien passé. Et on aurait presque pu croire au miracle et aller chercher un damier.
Ah, ça aurait été très très beau pour Kenseth. Ah ouais.
Quelle rédemption, c'est clair.
Ça aurait pu un bordel monstre dans la course au playoff.
Mais honnêtement, tu dis ça, mais faut être honnête deux secondes, Aloïs. On demande tous que ce soit le bordel dans les playoffs, quoi.
Ah oui. Ah oui, on est d'accord sur ça, il n'y a aucun problème.
Parce que maintenant que je suis en train de chercher Matt Kenseth, il est 28e. Bon, derrière lui, c'est Corey Lajoie, Ryan Preece, Daniel Suarez, Kyle Larson entre parenthèses, Brennan Poole. Enfin, sans faire offense aux pilotes qu'on a cités, Matt Kenseth, il va être devant, quoi. Je veux dire, il va même reprendre Ty Dillon, sans trop de surprise.
Et sans une victoire, ça ne le fera pas aussi.
Mais sans une victoire, ça ne va pas le faire, puisque Austin Dillon, qui est 16e, il a 360 points. Matt Kenseth, il en a 222. Et ça fait pratiquement 140 points à aller chercher.
Et Dillon est quand même solide cette saison.
Dillon, Dillon, à l'image de Reddick et de la RCR, c'est plus la même RCR, quoi.
C'est des Chevrolet en général, en fait.
Oui.
Parce que tu regardes Wallace, c'est pareil. Hein.
Mais oui, ouais, Wallace nous fait aussi de belles choses.
Chez Wallace également.
C'est ça. Bon, après, quand tu regardes bien, elles sont quand même habituées au fond de top 20, les Chevrolet au classement. Parce que Byron 14, Johnson 15, Dillon 16, Reddick 18, Wallace 19, Stenhouse 20. En fait, il n'y a que de chez Elliott qui est 2, quoi. Et Bowman 8.
Mais en fait, c'est performant, mais c'est vraiment avec des hauts et des bas. Mm. Soit c'est tout, soit c'est rien.
C'est ça.
Tu n'as pas une constance comme tu peux retrouver, par exemple, à la Penske ou à la Stewartas. Donc, chez les Ford.
Ouais, et j'ai oublié, t'as, comment qu'il s'appelle, t'as Kurt Busch qui est 11e du classement. Mais,
Fêtait 8e son 700e départ.
Qui fêtait son 700e départ. Une marque importante. Il n'y a quand même pas grand monde dans l'histoire de la NASCAR, en tout cas dans les années récentes, qui est arrivé à cette marque des 700 victoires. Donc, des 700 victoires. 700 départs, pardon, excusez-moi.
Mais en tout cas, pour revenir à Matt Kenseth, une victoire aurait pas du tout été volée. Parce qu'il avait quand même le rythme, c'était pas une victoire à l'arrache, à la conso ou sur un coup de poker dans les stands. Non, 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 il était là à la régulière et il était performant sur les deux derniers tiers de la course. Il était dans le top 5 ou au pire le top 10. Mm.
Donc, et puis en plus, en fin de course, il avait des gommes plus fraîches que Hamlin et Harvick. Oui. Mais la position sur la piste était encore une fois tellement
prépondérante
que...
C'est peut-être le seul problème qu'il y aurait à l'heure actuelle en NASCAR, c'est que l'importance du clean d'air demeure cruciale.
Ah ouais, puis alors, à Indianapolis, ouais, c'est peut-être encore pire qu'ailleurs, j'ai l'impression. Parce qu'une fois le restart passé, t'es devant, c'est foutu, quoi.
Donc on l'a vu, c'était quoi, c'est sur le dernier restart, j'ai un doute, sur le premier ou le second segment, c'était un pilote qui s'était pas arrêté, qui avait des gommes de quoi vieilles de plus de 30 tours par rapport à ceux qui avaient...
C'est quand Byron gagne le premier segment, oui. Non.
Donc c'est le premier segment, je pense que c'est ça. Et là, Byron, il met 5 secondes à tout le monde, limite la cigare au bec.
C'est ça, alors que... Non, c'est le cigare ou la cigarette, mais...
Oui, c'est le cigare.
Mais alors que le deuxième, je ne sais plus qui c'était, je me demande si c'était pas un des frères Dillon, il a pris une tannée sur les derniers tours, parce qu'il n'était pas dans le clean air. Et il s'est fait déposer par tous ceux qui avaient des pneus neufs. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le problème du clean air, mais cela dit, si... On a des restarts avec à chaque fois la manœuvre de Kevin Harvick dans la ligne droite arrière qui...
Ah oui,
elle est presque limite à la manœuvre de Hamlin.
Elle était... Oui, mais après, encore une fois, bon, ça bloque un peu, mais c'est pas de la monoplace. Il y a quand même un poil moins de risque, même si je suis d'accord, ça s'accroche. Hamlin, il peut partir en tonneau, tu sais pas comment ça termine derrière. Mais ça me choque un peu moins qu'en monoplace, où tu sais que si ça touche... ça s'envole et Hamlin il termine sur le parcours de golf, quoi. Donc bon, c'était limite. Il a laissé juste la place qu'il fallait. Harvick a pas levé. Harvick a vu le trou, il y est allé et c'est passé. Enfin, c'est aussi ça. Enfin, tu vois que ça reste des très grands pilotes. Ça bloque juste ce qu'il faut. Ça passe pour Harvick, mais enfin voilà, il y a juste la place à droite, juste la place à gauche. Et au final, ça nous donne une super manœuvre et tout le monde devant sa télé, parce qu'il n'y avait personne en tribune pour se lever, quoi.
C'est vrai.
Mais c'était... Voilà. Après, c'est vrai que c'est dommageable qu'au bout d'un tour, tu puisses pratiquement plus gagner de place, même si tu as une super voiture, que tu t'appelles Harvick, Hamlin ou autre. Globalement, les remontées étaient assez limitées. Mais c'est ainsi. Après, est-ce que tu vois le nouveau package aéro Un nouveau package. Le package aéro qui est en place à Indianapolis, qui est le même que sur les ovales de plus d'un mile et demi, est-ce qu'il est réellement adapté? Quand on voit ça, quand on voit le nombre d'explosions de pneumatiques, même si là on peut peut-être aller accuser les équipes de ne pas respecter les préconisations faites par Goodyear.
Ça, on ne le sait pas aussi.
Non, on ne le sait pas.
C'est fort probable.
C'est fort probable
qu'il décide de plonger le pneu jusqu'à la corde.
C'est ça, et qu'il décide de baisser la pression des pneus pour augmenter l'adhérence, surtout sur une piste comme Indianapolis, où il faisait très chaud et où l'adhérence était loin d'être au rendez-vous. Donc, c'est fort.
Allez, personne ne se plaint des pneus parce qu'ils savent très bien qu'ils dépassent littéralement les bornes.
Oui.
C'est vrai que personne n'est monté au créneau. Ouais.
Mais c'est ça, mais parce que, à mon avis. On ne sait pas tout, mais c'était quoi? C'était 42 PSI sur l'avant droit. Je pense que les équipes étaient en dessous, et même très bien en dessous, quoi. On était limite, peut-être pas à 18 PSI comme la limite à gauche, mais voilà.
Et apparemment, selon certains rapports sur les réseaux sociaux...
Selon la police ou les manifestants?
Je vois pas la référence, mais bon.
Non, je sais pas, les rapports, c'est suivant selon la police ou suivant les manifestants, quoi, c'est toujours la même chose.
Ah, non.
Ouais, merci. Vas-y.
Rapport de journaliste.
Ok.
Qui disait que à chaque fin de. Comment dire, de run sur les pneus, chez Denny Hamlin, on pouvait voir la corde.
Oui, mais après, bon, c'est.
Tu pousses un petit peu plus tes réglages sur le dernier run. Pouf, ça fait des chocs à pic.
Oui, mais pourtant, Hamlin dit qu'il ne poussait pas outre mesure. Donc, après, qui dit vrai, qui dit faux, je pense qu'il y a un jeu de poker menteur de tous les côtés.
Ils savent très bien ce qu'ils font, en tout cas, hein, sur le pitbox.
Oui.
Ils savent très bien qu'ils jouent avec le feu, et des fois ça passe, des fois ça passe pas.
Exactement. En fait, la seule fois où les équipes ont respecté ce que Goodyear a dit, c'était déjà Indianapolis, c'était en 2008. Hein. Parce qu'à un moment donné, c'était juste plus possible. Quoi. La NASCAR a oublié de sortir le drapeau jaune au bout de 5 tours. Pourtant, Dale Earnhardt Jr., je crois, était dans le tour à ce moment-là. Enfin, voilà, en termes de course rocambolesque, je pense pas qu'on ait fait pire. Si, peut-être les Coca 600 ou 22 drapeaux jaunes, je sais plus quand, 2005.
Mais tout ça pour dire que la bataille entre Hamlin et Harvick, à mon sens, c'est un tournant de la saison. Parce que c'est sans aucun doute les deux meilleurs pilotes en 2020.
Oui.
Et je pense qu'on a marqué ça a marqué un tournant parce que les deux étaient en bataille pour la victoire. Ils s'échangeaient la première place une bonne partie de la course. Et surtout, les deux pitbox étaient l'un à côté de l'autre. Ils pouvaient se voir et ils se faisaient des gestes.
Oui, oui, oui.
Justement, l'erreur, tout du moins volontaire ou non, de Hamlin dans le turn one dans les derniers tours, je pense que ça marquera la saison. Et aussi bien l'écurie 4 que l'écurie 11 s'en souviendra au moment des playoffs.
Sur la prise de risque, je veux dire, oui.
On a pris des risques, ça a passé. On a pris des risques, ça n'a pas passé. Tout dépend du point de vue où on se place. Quand il faudra faire un coup de poker au moment des playoffs ou même à la finale.
Mais fin, ça veut dire que si tu fais un coup de poker, c'est globalement, t'es pas bien. Tu vois. Et on parle quand même des pilotes qui ont le plus grand nombre de victoires cette année. 22 points de bonus pour Harvick, 23 pour Hamlin. Harvick est solide leader. Hamlin, il est à 109 points. Mais bon, à côté de ça, il est à 20 points en gros de Chase Elliott qui est deuxième. Donc c'est pas non plus déconnant. C'est juste Harvick qui a une valise d'avance.
Et après, les points pendant la saison régulière n'équivaut pas aux points qu'il y aura au moment des playoffs.
Oui, oui, tout à fait. Mais
final, c'est ça ce qui compte pour des pilotes comme Harvick et Hamlin.
Ah oui, tout à fait.
Donc... Après là, Loïs, tu parlais de coup de poker. Oui, je te rejoins. Pour maintenant, Harvick et Hamlin, ce qu'ils veulent, c'est des victoires. Jusqu'au play-off.
Oui, c'est ça.
Faire deuxième, ils en ont rien à foutre.
Parce que l'inverse, Harvick serait resté leader. Enfin, si Harvick était resté 2 et Hamlin gagnait, Harvick, il aurait eu 17 points de play-off. Hamlin, il en aurait eu 28. Et là, c'est déjà plus la même affaire.
Mais je pense que cette course à Indianapolis, je pense que les pilotes vont s'en souvenir. Je parle de Harvick et de Hamlin parce qu'ils savent très bien que ce sont les deux meilleurs pilotes de la saison. Et ils savent très bien que les deux vont jouer le titre d'ici quelques mois. Et une passe d'armes comme celle-ci, avec une telle issue, aussi dramatique soit-elle, ça marque les esprits. Mmh. Ça passe pas à la trappe aussi facilement que ça. Et c'est surtout deux écuries rivales depuis très longtemps, depuis beaucoup de saisons. Alors, donc, il y aura. Ce qui s'est passé restera dans les mémoires.
Ça fera date.
J'en suis certain.
Non, mais et puis là, vu comment on est parti pour déjà avoir au moins ces deux-là pour la finale à Phoenix.
Ah, bah oui, oui, oui. Et puis,
avec 4 victoires, quand on sait comment les points de bonus sont avantageux pendant les playoffs.
Et les deux à Phoenix qui sont très bons, quoi. Donc,
En plus, donc, on en a déjà 2 sur 4.
Et puis avant, t'as Martinsville, t'as Texas, et tu as. Non, pas Bristol.
Kansas.
Non, t'auras Kansas a priori.
C'est Kansas ?
Bah, je crois qu'ils veulent changer Kansas et t'as la dégâts.
Tout ça pour dire qu'au final, le dernier segment, enfin les trois dernières courses avant Phoenix, ce sont des courses où Hamlin et Harvick sont de très bons pilotes.
Ouais, ça peut être. Les victoires peuvent être phagocytées par ces deux-là. Les trois dernières courses prévues, c'est Kansas, Texas, Martinsville.
Ok.
Mais ça pourrait être Las Vegas, à la place de Kansas.
De toute manière, ça reste un de leurs jardins, j'ai envie de te dire.
Ça reste un ovale d'un mile et demi, quoi.
Et ça reste à un mile et demi, ouais.
Kansas, Vegas, comme dirait si bien Arnaud, ça rime avec pétasse. Même
petite
Texas.
Dédicace.
C'est ça. Bref.
On parle des autres pilotes, peut-être.
C'est ça, c'est qu'en fait, il y a encore tellement de choses à dire. Je voudrais juste vous citer le top 10, quand même.
Allez.
Vous m'arrêtez s'il y a un pilote qui vous interpelle dans ce top 10. Donc, Kevin Harvick, Matt Kenseth, 3e, Harry Calmirola. Oui, belle remontée. Hein. Enfin, pareil, problème de pneus, je m'arrête hors séquence et je remonte bien.
Ah ouais, Harry Calmirola, c'était encore une fois très fort. Stewart Haas Racing, j'ai envie de te dire. Et c'est surtout son 5e top 5 consécutif.
Oui.
Oui, il était un petit peu à la rue en début de saison, mais là, il y a un vrai regain. Ouais. Depuis les deux courses de Pocono, où il aurait peut-être pu aller en gagner une.
Mm-hmm. Bah là, Homestead 5, Talladega 3, Pocono 3-5, Indianapolis 3.
Non, mais clairement, oui, il y a un petit truc qui a été trouvé chez Almiro, là, c'est clair.
C'est ça. 4e, Brad Keselowski, donc là, je m'arrête tout seul. Eh oui, non, mais Brad Keselowski, 4e, vous vous rendez compte quand même du premier week-end Indianapolis de l'histoire de la Penske ? Aucune des voitures badge Penske n'a gagné. Il y avait quand même 3 courses.
Et tout le monde disait oui, Penske peut faire un triplé.
C'est ça. Une course d'IndyCar qui était promise à un pilote Penske.
Ils ont fait des pôles déjà, c'est pas mal.
C'est ça. La Xfinity qui était, enfin, comment qu'il s'appelle dans la 22.
Austin Cindric,
merci. Qui était en lice pour la victoire jusqu'au bout. Et par contre en Cup.
Ah oui, c'est sous pas la grimace.
La quatrième place, ça sauve très 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 très
ouais,
bien
les mains. On les a pas beaucoup vus les... en plus en Cup.
Brad Keselowski, en fermant les yeux, je suis incapable de dire à quelle place il finit.
Mais il termine oui, c'est ça, en fermant les yeux, oui, mais il termine quatrième.
Il nous a fait une quête 7 de la grande époque.
Et exactement. 5e, le rookie Cole Custer, messieurs.
Stewart Haas
Racing. Oui, c'est ça, Stewart Haas Racing, encore une fois un rookie. 6e, Kyle Busch, premier pilote Toyota.
Kyle Busch, transparent.
Ouais, c'est ça.
Au moins que Keselowski.
Oui, mais pour du Indiana, Indianapolis, Kyle Busch, c'est très très light. Je rejoins un peu Lilian. Après, ça reste Kyle Busch. On dit pas qu'il est mauvais, mais.
Kyle Busch, on a l'impression un petit peu qu'il paye le manque d'essai et le fait de plus rouler dans les divisions inférieures.
C'est ça, mais clairement...
Lui, il avait vraiment besoin de ça, il enchaînait les victoires comme des perles, fut un temps.
C'est ça, mais clairement, il le dit, le manque d'essai lui est préjudiciable, et c'est pour ça qu'en fait, tout le monde le mettait favori de la seconde course de Pocono. Parce que la première course aurait servi de galop d'essai un petit peu.
Mais je crois que je sais plus si c'est Mike Joy ou si c'est Jeff Gordon qui a blagué sur ça, mais il disait que la première course de Pocono faisait office d'essai pour la seconde à Kyle Busch en pleine diffusion de la Fox.
Oui, mais oui, mais parce que Kyle Busch est comme ça. Kyle Busch est l'un des très rares pilotes qui se plaint régulièrement dans les médias que le manque d'essai lui est préjudiciable. C'est le seul qui s'exprime en ces termes, à mon sens. Et après, c'est pas un côté, quand il le dit, alors ok, il y en a qui vont dire c'est un côté Calimero. Là, pour le coup, je veux bien prendre la défense de Kyle Busch et dire que oui, voilà, il a besoin des essais pour mettre au point sa voiture. Maintenant, les conditions, elles sont les mêmes pour tout le monde. Il s'adapte juste moins bien. Mais bon, en s'adaptant moins bien, faire 6e, c'est pas non plus dégueulasse. Donc voilà, 7e Michael McDowell.
Top.
Vas-y.
Ah, je te dis un top à chaque fois, j'ai besoin de dire un truc.
Ouais, vas-y.
Va falloir commencer à parler des Ford de chez Bob Jenkins.
De la Frontro Motorsports, oui.
La Frontro Motorsports, parce que on se rend pas compte, mais ça enchaîne les top 10.
Ah ouais, cette année, McDowell, c'est fou.
Sans parler des Super Speedway, où il arrive régulièrement à poster des top 10, il vient d'enchaîner en l'espace de 8 jours une 8e place à Pocono et une 7e place à Indianapolis à la régulière. Mmh. Et ça, je trouve que c'est très fort.
Et tu veux que je te dise, parce que là, c'est bon, on a déjà débordé la demi-heure de 50 minutes. Tu veux que je te dise, la 7e place de Michael McDowell, alors ouais, c'est très bien pour Michael McDowell, mais tout le monde s'en fout par rapport à son coéquipier, le Lantern et Metchek, alors que le résultat est tout aussi bon et que la course est tout aussi solide, quoi.
Ah, mais c'est un Nemechek.
Nemechek fait 15.
Nemechek fait, entre guillemets, que 15. Mais Nemechek fait 7e. T'as 25 papiers qui sortent dans les 3 heures de la fin de course. Ouais.
C'est vrai. Mais en tout cas, deux top 10 en une saison pour Michael McDowell, c'est déjà, ça égale son record en carrière. Et il y a encore des super speedway à courir.
Oui, et puis on n'est pas à l'abri, tu vois, d'une course à Bristol où il évite les embûches. Et il nous fait un bon résultat, quoi.
Donc... Mais je trouve que la saison de Michael McDowell est quand même solide et depuis.
Ça n'a rien à voir, la reprise, c'est largement mieux.
La reprise, tu as que 1, 2, 3, tu as 4 résultats en dehors du top 20 depuis la reprise à Darlington.
Oui, oui. C'est...
Donc en 10 courses, tu fais, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5. Tu as 5 top 15.
Mais je suis en train de regarder Michael McDowell, il est 23e avec 285 points, 6 points derrière son coéquipier John Hunter Nemechek. Pour les situer un petit peu. Donc, clairement, par rapport à Austin Dillon, on est à 70 points, 75 points. Ça passera pas, faut pas se leurrer. Mais
bien que ça n'aille pas en playoff, il faut quand même souligner le niveau de performance de la Frontro Motorsport cette année. Je pense que c'est certainement dû aux performances des Ford.
Et attends, les deux coéquipiers sont capables de bosser ensemble sur la finale de la saison régulière à Daytona, quoi. Ça pourrait aller en playoff comme ça, hein, pour l'un des deux.
Ouais. Ce serait beau. Et tu vires un pilote d'une grosse écurie.
Ouais, ça pourrait être très beau. Bah là, pour le coup, tu virerais Austin Dillon. Mais bon, on y reviendra, je pense, sur Michael McDowell et John Hunter Nemechek. On n'a pas fini d'en parler sur l'ensemble de la saison. Huitième, un autre rookie, Tyler Reddick.
Toujours aussi solide.
Toujours aussi oui. Solide, effectivement.
Ça semble quand même un petit peu volatile. Tu sens qu'un bon résultat peut partir en travers en l'espace de quelques secondes.
Oui, mais bon, ça reste un rookie. Ça a aussi le droit de faire des erreurs. Mais globalement, on voit de très belles choses sur les différents rookies qu'on a cette année. Je mets Quinouf et Brennan Poole à part, parce que eux n'ont pas forcément le matériel adéquat pour briller. Mais Cole Custer, Tyler Reddick, Christopher Bell étaient clairement attendus parce que c'était les trois avions de la Xfinity la saison dernière. John Hunter Nemechek était aussi attendu parce qu'il a un talent certain. Mais c'est vrai que les quatre nous font de belles choses à tour de rôle. Globalement, je pense que depuis le début de l'année, on a pratiquement un dans le top 10 à chaque course. Quoi.
C'est vrai.
En moyenne. Donc,
Ou alors en course pour un top 10 si jamais il n'y a pas de résultat.
Ouais. Donc c'est du très bon. 9e, Bubba Wallace.
3e top 10 de la saison.
Oui. Et 10e, Casper numéro 2, Joey Logano.
Qui obtient un top 10, il faut quand même le souligner. Il tire les marrons du feu de l'accident qu'il y a dans le dernier tour entre Austin Dillon et Matt DiBenedetto.
Mm. Ah, faut en parler des deux idiots là aussi. Hein.
Ouais, c'est surtout DiBenedetto.
Ah ouais, non mais en plus les deux sont en course pour une place dans les playoffs.
Il y a une réelle sympathie pour DiBenedetto, mais là il fait de la merde.
Ah oui, carrément, il débranche complètement et boum, que je viens de te couper la route dans le turn 4 pour te foutre, je sais pas, dans le mur, mais c'était incompréhensible. Mmh. Alors que les deux étaient dans le top 10.
Ouais,
effectivement. Messieurs, faut quand même aussi qu'on parle du grand absent, cette course d'Indianapolis, quand même.
Oui.
Et quand même, saison de merde pour Jimmy Johnson quand on y repense. C'est sa dernière année en carrière. Son meilleur résultat, il est effacé parce que la voiture était non conforme. Il prend 2 mois dans les dents à cause de la pandémie. Il n'a pas de public pour une dernière année. Enfin, ça la fout un peu mal. Et là, on apprend la veille ou l'avant-veille d'Indianapolis qu'il est positif au coronavirus. Donc forcément, mis à l'écart. Justin Allgaier qui monte dans la voiture. Là, Hendrick avait prévu le coup, puisque si un des pilotes était positif, c'était Justin Allgaier qui était prévu. Voilà, ils avaient fait mouler tout ce qu'il fallait, le siège, les pédales et tout. Tout était réglé pour que Justin Allgaier puisse monter dans la voiture, parce qu'il n'a pas forcément la même taille que les quatre titulaires habituels de la Hendrick Motorsports. Justin Allgaier, pris dans cet accident complètement incroyable à l'entrée des stands.
Ça n'aura pas été loin, malheureusement, pour sa première course dans la 48.
Il fait 37e, et j'ai envie de dire, il perd une occasion de se montrer, même s'il n'est pas dans la shortlist, comme on dit, pour prendre la 48 la saison prochaine.
Bah, c'est toujours bien pour son CV.
C'est toujours bien, mais a priori, non, voilà.
Dire, un bon résultat, c'était toujours bien pour son CV, quel que soit le résultat, mais au final, là, tu fais 17 tours et tu te retrouves dans les garages pour un truc dont tu n'es pas du tout
responsable.
Tu es juste un dégât collatéral.
Oui, c'est vrai.
À croire que le chat noir a été moulé dans le baquet de Justin Allgaier.
Je ne sais pas, mais c'est vrai que voilà, il aurait peut-être pu nous faire quelque chose et pourquoi pas renverser la table en vue d'avoir la 48 la saison prochaine. Mais pour l'instant, son nom n'apparaît même pas dans les 3-4 noms cités pour prendre la suite de Jimmy Johnson.
Et c'est surtout pour revenir à ce que tu disais à Jimmy Johnson, c'est surtout terrible ce qui lui arrive, parce que c'est la première fois de sa carrière, de sa très longue carrière...
Oui, qu'il manque une course.
Qu'il manque une course. Et c'était quoi? C'est plus de 600 départs consécutifs, c'est ça, non?
Je crois que c'était 683.
Ouais, plus loin, il approchait les 700, ouais.
Et tu dis que c'est en plein milieu de ta dernière saison, tu dis que je pense que tu as déjà fait le plus dur en termes de départs consécutifs, et là, boum, virus, t'es sur la touche pendant 2 semaines.
Bah pendant 2 semaines. Le temps que il faut qu'il ait 2 tests négatifs à 24 heures d'intervalle. Donc
ouais,
après.
Donc on sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est quand même très con. D'en arriver là, et surtout d'être le premier.
C'est...
Jimmy Johnson, tu pars en retraite, t'es le premier
à choper le COVID-19. C'est dommageable. Et il est 15e du classement général pour l'instant, sans la moindre victoire. Donc, attention, il va se faire dépasser normalement par Austin Dillon s'il ne participe pas au Kentucky. Il y a 30 points d'écart entre les deux hommes. Quand on voit la forme d'Austin Dillon, c'est jouable de marquer 30 points sur le val d'un mile et demi du Kentucky. Eric Jones n'est pas très loin, donc ça peut vite être opération catastrophe pour Jimmy Johnson, et le sauvetage passerait par une victoire de, j'ai envie de dire, désolé, mais de derrière les fagots sur la fin de la saison régulière, puisque Jimmy Johnson ne nous montre plus forcément de très belles choses course après course.
Je sais pas ce que... c'est un peu... c'est vrai que je te rejoins, je trouve que... Parmi les pilotes Hendrick, c'est souvent, très régulièrement, l'un des moins bien classés. Quand ses coéquipiers brillent, peut-être pas en fin de course, mais en tout cas au début ou en milieu de course, c'est pas Johnson. Non. Ce sera Byron, ce sera Bowman, ce sera Chase Elliott, mais pas Jimmy Johnson.
Oui, effectivement. Donc voilà un petit peu pour ce pauvre Jimmy Johnson qui, pour le coup, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir pour l'instant. Et... Ça met un petit peu du plomb dans l'aile en vue d'une qualification pour les playoffs. Ce qui était quand même l'objectif pour sa dernière année, après une année 2019 déjà cauchemardesque.
Et qui était, avant Indianapolis, largement faisable.
Tout à fait.
Et qui dit qu'il va peut-être pas re-signer pour une année, du coup.
Ah non, il avait déjà dit pendant la pause liée à la pandémie que 2020 était sa dernière année, quoi qu'il arrive. Et la Hendrick est déjà dans des discussions bien avancées avec quelques pilotes en vue de 2021.
Brad Keselowski.
pas que, étonnamment, pas que. Il y a Eric Jones aussi que j'ai vu passer en termes de pilotes qui pourraient intéresser la Hendrick.
Oh bah ouf, Jimmy Johnson par Eric Jones, désolé.
Voilà la boulette.
Et après, il y aurait le grand copain de l'équipe, John Hunter Nemechek.
Je sais pas, mais je vois bien Keselowski, ça libérerait une place pour que Austin Cindric monte d'un rang.
Oui, après.
Parce que chez Ford, dans Xfinity, y a, les petits jeunes, ça tape déjà aussi. Hein. Entre Briscoe et Cindric.
Mais Briscoe est chez Stewartas. Donc,
C'est vrai.
tu pourrais remplacer qui n'est pas un Clint Bowyer ou un Kevin Harvick qui part à la retraite?
Ouais,
Oui.
Bowyer, il va partir avec Gordon chez Fox.
Ah oui. Bah, d'ailleurs, je l'implore de partir chez la Fox.
Non, non, non,
Non pas parce que
non.
je l'aime pas en piste, mais parce que ce serait des barres à
Non,
la
non,
télévision.
non, c'est pas ça. C'est que si signe en tant que vraiment consultant sur les courses de Cup, c'est virer Mike Joy, quoi. Non,
Oh, il pourrait être à 3.
non, tu vires Mike Joy. Je pense que là, les courses, tu te fends la gueule. Je pense que ça peut être très très bon. Enfin voilà. Messieurs, on n'en a pas parlé, mais ce week-end, il y a quand même du Kentucky. Ça va être très chargé puisqu'il y a deux courses d'Xfinity, une course de Truck et une course de Cup. La course de Cup est prévue en diurne, mais rassurez-vous, il y a des projecteurs, donc la course pourra être nocturne. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc vu qu'il va
Ça va
pleuvoir,
plaire à ceux qui aiment que les courses soient tard.
c'est ça. Hein. Et Lilian, non Lilian, pardon, Aloïs, je veux pas t'entendre dire qu'il va faire beau au Kentucky, parce que quand tu nous dis qu'il fait beau, on a un temps de merde derrière et on s'en prend pour 2 heures.
Attends, je cherche ça, je cherche.
Non, 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 on n'a plus le temps,
Ah.
on a dépassé, là, on a fait une
Le
demi-heure de 60
personnel.
minutes. Non, 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 c'est pas grave. On vous mettra toutes les infos que l'on a dès que possible. Donc rendez-vous ce week-end pour suivre les courses du Kentucky et puis pour suivre Road America. Pour ceux qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de course, là ils vont faire une orgie, ils vont nous en faire 6 sur le week-end. Donc bon courage, amusez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Mais ce sera peut-être pas à l'heure habituelle et pas le jour habituel puisque la semaine prochaine,
C'est 14
c'est le
juillet.
14 juillet. Donc on va
Et
peut-être.
le week-end de 4 jours, ça aide bien.
C'est ça, on va peut-être se faire un petit feu d'artifice. Voilà.
Confiné à la maison.
C'est ça, continuer à la maison. Ouais. On va sortir 2-3 mammouths, 2-3 bisons. Et puis.
Ah
putain, en Allemagne, t'es servi, tu peux aller comme tu veux.
Ouais, c'est ça, je passe la frontière comme je veux. Ouais, mais je crois que je suis limité en termes de kilos. Je crois qu'il m'en faut pas plus de 30 kilos.
Mais il y a un problème à la frontière? Tu vas en Moselle?
Mais. fais gaffe à ce que tu dis, parce que.
Oh, j'aurais pu dire, tu vas dans les Vosges.
Ah ouais, mais non, mais les Vosges, non, mais non, mais non, 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 là, stop, là on diverge, on va finir de diverger hors antenne, Aloïs.
C'est ça ou c'est la politique?
Ou la météo, vous choisissez.
Oh, ta gueule.
On a quand même parlé hors antenne des emplois fictifs du RPR.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, vous avez cherché, les gars. Bon, sur ce, messieurs, on s'arrête, stop, on a trop débordé, on pourrait faire deux émissions en une. Il n'y a pas de souci. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne semaine. Bye bye.
Bonne semaine à tous, bon courage.
Bonne semaine à tous et bon courage au week-end.